choisi par Jésus dès avant sa naissance, il se fera le plus humble de ses serviteurs. C'est lui qui disait « Je ne mérite même pas de me baisser pour délier la courroie de ses sandales ».
Pourquoi se faire si humble si c'était un si grand prophète?
Tu sais, l'humilité, c'est vraiment l'opposé de l'orgueil dont nous avons parlé souvent déjà. Eh bien, Saint Jean, comme la Sainte Vierge d'ailleurs, en se reconnaissant et en se montrant les simples serviteurs du Seigneur, mettait en valeur l'importance de Jésus, faisant ressortir sa grandeur. Un peu comme le fond d'un dessin a pour intérêt de mettre en relief le décor lui-même. Saint Jean disait ainsi,
« Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je suis la voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Un homme ne peut prendre que ce qui lui a été donné du ciel. Je ne suis pas le Christ, je suis celui qui a été envoyé devant lui. »
Quant à Saint Jean l'évangéliste, plus tard, il écrit de Saint Jean-Baptiste,
« Il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. »
C'est Jésus la lumière? Pourquoi l'appelle-t-on comme ça?
Pourrais-tu vivre sans lumière? Pourrais-tu vivre si l'eau n'existait pas? Vois comme les hommes sont malheureux lorsqu'il fait mauvais temps. Et pourtant le soleil est toujours là. Il se cache seulement derrière les nuages. La vie serait impossible sans le soleil dans la nuit perpétuelle. Et pour l'eau, c'est pareil. Nous n'aimons pas qu'il pleuve trop souvent, bien sûr. Mais la sécheresse est une catastrophe. Et dans les déserts, on peut mourir de soif. Le soleil, l'eau sont indispensables pour la vie de notre corps. Nous découvrirons ensemble peu à peu que Jésus est tout aussi indispensable à notre vie d'enfant de Dieu. C'est pourquoi tu entendras souvent comparer Jésus, le Christ, à la lumière ou à l'eau vive, celle qui sort du rocher toute pure et propre, l'eau vivante, pas celle qui dort et pourrit dans les mares, bien sûr. Mais savez-vous que Jean se fâchait parfois? Il était venu pour réveiller les gens, les déranger dans leurs habitudes, les inquiéter afin qu'ils deviennent capables de comprendre Jésus, de voir la vraie lumière. Aussi lui arrivait-il parfois d'être violent en parole.
Race de vipère, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour le repentir. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu.
Il n'était vraiment pas commode alors. Tu dis que Dieu est bon, Jésus aussi serait. Alors pourquoi Jean se fâchait-il si fort?
Il faut te dire qu'il s'adressait là aux pharisiens.
Ce n'étaient pas des juifs?
Si, mais ces juifs-là faisaient seulement semblant de respecter la loi de Dieu. En fait, ils ne la respectaient qu'en apparence, mais pas vraiment au fond de leur cœur et dans leurs actes. C'est cela qu'on appelle l'hypocrisie. On joue le rôle de quelqu'un de bien. Et Saint Jean aurait tellement voulu qu'ils comprennent qu'ils étaient hypocrites, qu'ils se repentent, c'est-à-dire qu'ils regrettent et qu'ils changent.
Et eux, ils ont compris? Ils ont changé?
Pas toujours, Sophie. De même que toi, tu ne comprendras bien toutes ces choses que lorsque tu auras longuement écouté Jésus, réfléchi à tout ce qu'il a dit, à tout ce qu'il a fait, à tout ce qu'il est venu nous apporter et nous demander. Tu verras, en grandissant comme il est difficile de ne pas faire comme les pharisiens. On n'a jamais fini de bien accorder tout ce qu'on croit, ce qu'on pense, avec ce qu'on fait.
C'est la nuit de Noël, la fête des enfants. C'est la nuit de Noël, allons voir cet enfant. Ce soir la neige tombe, écoute bien garçon, l'histoire que je raconte, écoute cette chanson. C'est la nuit de Noël, la fête des enfants, c'est la nuit de Noël, allons voir cet enfant. Il y a 2000 ans, naît un petit enfant, il est tout innocent, fait la joie de ses parents. C'est la nuit de Noël. des enfants. C'est la nuit de Noël, allons voir cet enfant. On l'appelait Jésus, ce soir-là il est venu pour t'apporter la paix, l'amour et l'amitié. C'est la nuit de Noël, la fête des enfants. C'est la nuit de Noël, allons voir cet enfant. Ce tout petit enfant est plus grand que les grands, il porte dans son cœur la joie et le bonheur. C'est la nuit de Noël, la fête des enfants. C'est la nuit de Noël, allons voir cet enfant. Regarde le petit et puis fais comme lui, et tu tendras la main à tes frères humains. C'est la nuit de Noël, la fête des enfants. C'est la nuit de Noël, allons voir cet enfant. Un jour tu comprendras que d'aimer c'est la joie, l'enfant qui nous l'a dit, il est né aujourd'hui. C'est la nuit de Noël, la fête des enfants. C'est la nuit de Noël, allons voir cet enfant.
Maman, cette fois c'est Noël ?
Pauvre Sophie, l'attente t'a paru longue. Mais quelle joie, n'est-ce pas, lorsqu'enfin Jésus est là. Tu as vu le monde depuis Abraham se préparer tant bien que mal à la venue du Messie. Et chaque année dans nos maisons, on attend Noël aussi. Chacun de nous prépare en cachette ses petits cadeaux. Les rues, les magasins, tout se décore, tout s'illumine. Comme si le monde entier essayait d'oublier ses soucis, ses peines, ses disputes, pour se tourner vers la joie de cette fête. Mais croyez-vous que les cadeaux, les guirlandes, ça suffise pour bien recevoir Jésus? Plusieurs semaines, 4 exactement, à l'avance, chacun de nous dans son cœur, essaie de s'apprêter, de se tenir prêt pour la naissance du Messie, le Fils de Dieu, venu pour nous sauver.
C'est cela l'avant?
Oui. Mais sais-tu ce que veut dire avant?
Bien sûr, c'est le contraire d'après.
Tu parles trop vite. Et ça te fait faire une faute d'orthographe. Car l'Avent, ce temps de 4 semaines pendant lequel nous préparons Noël, s'écrit avec un E. A-V-E-N-T.
Ça veut dire la même chose?
Pas du tout. C'est un mot qui vient du latin advenire. Et il signifie arriver. Arriver de Jésus, naturellement. Rappelle-toi Saint Jean-Baptiste. Repentir, effort, sacrifice. Renoncement. Voilà ce qu'il demandait, et voilà aussi ce que nous pouvons essayer de faire pour devenir meilleurs, plus simples et plus francs, parce que c'est le plus sûr moyen de bien accueillir Jésus et de le comprendre. Nous savons tous ce qui s'est passé à Noël. Mais nous allons tout de même écouter le plus beau récit qui en ait été fait.
En ces jours-là, parut un édit de César Auguste pour le recensement de toute la terre.
César était un empereur romain qui croyait dominer et gouverner le monde presque entier. En quoi il se trompait fort, car bien des contrées étaient encore inconnues. Il voulait, en tout cas, faire compter tous les habitants de son empire pour savoir au juste combien de gens devaient lui obéir.
Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, il arriva que le temps où elle devait enfanter fut révolu. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie.
Regardez la carte. De la Galilée au nord, à la Judée au sud de la Palestine, Marie et Joseph on fait à nouveau tout le long chemin de la Visitation, et la Sainte Vierge devait être bien fatiguée cette fois-ci, car Jésus était tout près de naître. Comme ils avaient frappé à toutes les portes de Bethléem sans pouvoir trouver où se reposer, ils finirent par se réfugier dans une grotte. Vous savez, comme Abraham, les Hébreux de ce temps étaient très souvent des bergers. Ils passaient la nuit au champ pour surveiller leurs troupeaux et se protégeaient contre les nuits froides dans ces abris où ils avaient installé des mangeoires pour leurs brebis. On dit aussi des râteliers ou des crèches, et vous en avez bien vu dans les fermes. On y met du foin, et vous savez que dans le foin, on a chaud.
Oh oui, mais ça pique.
C'est vrai, ce n'est pas très doux. Tu vois que Jésus est arrivé au monde dans des conditions misérables. Te souviens-tu des prophètes qui nous avaient annoncé un roi dont l'empire s'étendrait sur la terre entière? Tu sais, Jésus, il n'a pas fini de nous étonner.
Et les bergers?
Les bergers? Écoute.
L'ange du Seigneur leur apparut et leur dit, « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est Christ Seigneur. Vous le trouverez enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Et il chantait, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes qui l'aiment. »
Bien sûr, les bergers trouvèrent ces paroles et cette musique très belles, mais bien étonnantes. Aussi, après en avoir discuté entre eux, ils pensèrent que le mieux était d'aller voir. C'est pourquoi, naturellement, toutes les crèches que tu as vues à la maison, dans les églises et même quelquefois dans les vitrines des magasins, représentent autour de la Sainte Famille, Marie, Joseph et leur petit, Jésus, toute une foule de braves gens venus apporter leurs cadeaux, une miche de pain, du fromage, des fleurs, un petit agneau peut-être, pour faire plaisir au bébé et à sa maman.
Ensuite, ils s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été dit.
Tout de même, j'ai du mal à comprendre. Depuis le début, tu nous dis que Dieu est grand, qu'il est bon, tellement bon qu'il nous envoie son Fils. Tu nous dis qu'il est tout puissant. Et il laisse faire ça? Il permet que Jésus naisse dans une grotte et dorme sur la paille? Il ne pouvait pas faire autrement?
Aussi, il aurait pu faire autrement. Mais tu sais, ce n'est pas pour rire que Dieu nous a créés libres. Il prend les hommes comme ils sont, il tient parole et laisse le monde se débrouiller. Vois, il nous a donné la terre, les plantes, les animaux, et selon notre choix, nous en faisons bon ou mauvais usage. Vous savez bien, toi surtout, Paul, ce que les savants ont découvert, tout ce qui nous entoure est paraît si varié, est composé en réalité d'éléments infiniment petits, les atomes, dont seules les combinaisons sont différentes. Vous savez que par cette découverte, les savants ont rendu l'homme capable de tout casser? Simplement en décrochant ces atomes les uns des autres.
C'est la bombe atomique?
Oui, mais l'homme peut aussi employer cette même découverte pour faire des choses dont nous avons besoin. L'électricité, par exemple. Vous voyez bien que Dieu n'intervient pas dans ces découvertes. Encore moins dans l'usage que nous déciderons d'en faire, même s'il est très mauvais. Il voit, il sait, puisqu'il voit tout et sait tout, mais il nous laisse agir. Je crois seulement que de tout son amour, il se contente d'appeler l'amour des hommes. Seul, cet amour peut guider nos choix. Et souvent, il appelle, et l'homme ne répond pas. Abraham avait répondu, mais le modeste hôtelier de Bethléem, lui, n'a pas répondu. Peut-être n'avait-il vraiment plus de place, mais peut-être aussi trouvait-il Joseph et Marie trop pauvres. Seul, Dieu le sait. Mais moi, je vais vous dire autre chose. Je trouve au contraire très bien que Jésus soit né presque misérable, parce qu'ainsi les bergers, qui sont des gens simples et pauvres, ont pu arriver les premiers. Imaginez que Jésus soit né fils de prince dans un très beau et riche palais. Croyez-vous qu'on les aurait laissés entrer? Et même si on les avait acceptés, croyez-vous qu'ils auraient osé entrer? Et même s'ils avaient osé, ils auraient sûrement montré beaucoup de respect, mais ils n'auraient pas éprouvé tant de joie. En repartant, ils auraient raconté partout leur fierté d'avoir été invités, mais ils n'auraient sans doute pas pensé à louer Dieu, comme ils l'ont fait. Et la Sainte Vierge, pensez-vous que toutes ces visites, ces cadeaux, ces chants d'admiration et de joie des anges et des bergers, pensez-vous qu'ils l'excitaient, lui tournaient la tête, la rendaient fière d'elle-même? Non, ce que Saint Luc nous dit d'elle, c'est quelques mots seulement.
Marie recueillait toutes ces choses et les méditait dans son cœur.
Loin de se vanter d'avoir été choisie pour être la maman de Jésus, elle s'efface. En laissant les bergers admirer son fils, elle fait déjà le don de Jésus à tous les hommes, et elle reste ce qu'elle a toujours choisi d'être, la servante du Seigneur. Mais si Jésus a d'abord été reçu par les pauvres, il ne faut pas oublier l'épiphanie.
Qu'est-ce que c'est?
C'est ce que nous appelons plus souvent la fête des rois mages.
Ah oui, je sais, on mange la galette. Parce qu'on est encore content, n'est-ce pas, maman?
Et on l'est, en effet, parce qu'après les gens simples, arrivent les riches, les savants, les étrangers. Seul Saint Matthieu nous parle d'eux.
Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages vinrent de l'Orient à Jérusalem, demandant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son astre en Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. »
C'est quoi au juste des mages?
Sans doute des savants qui, de ce temps, trouvaient dans le ciel et les étoiles les premières bases de leur connaissance. On appelle aussi ces savants des astrologues, car une étoile, c'est un astre. Sans être même des juifs, ils avaient entendu parler de la Bible et du grand roi qu'attendaient les Hébreux. C'est pourquoi je vous ai dit qu'arrivaient maintenant les riches, ceux qui sont haut placés dans la société, les savants, ceux qui sont intelligents, les étrangers, ceux qui ne sont pas juifs. C'est dommage, voyez-vous, qu'on ne pense plus guère qu'à la galette ce jour-là, car c'est si important.
Pourquoi dites-vous que l'adoration des riches et des gens intelligents est plus importante que celle des pauvres et des gens simples?
Je ne dis pas du tout qu'elle est plus importante. Ce qui est important, c'est que nous comprenions, grâce à l'épiphanie, que Jésus n'est pas venu que pour les pauvres, mais aussi pour les riches. Il n'est pas venu que pour les gens simples, mais aussi pour les gens intelligents. Il n'est pas venu que pour le peuple qu'il avait choisi, mais aussi pour toutes les nations, ceux que tu entendras appeler les gentils. Non pas parce qu'ils seraient plus jolis que les Hébreux, mais parce que le mot latin, « gens », veut dire tout simplement « nation ». Jésus est venu pour toutes les nations. Jésus est venu pour sauver les hommes, et il aura pour tous les hommes le même amour et les mêmes exigences.
Nos petites sœurs, ta main au creux de la mienne. Nos petites sœurs, une étoile est dans ton cœur. Dans cette nuit, viendra Noël. Tombant douceur, aussi douce que ton cœur. Dans cette nuit viendra Noël. Papa l'a dit, et les anges t'appellent. Dors petite sœur, tu souris lorsque je chante. Dors petite sœur, ton sourire est dans mon cœur. Mmh, mmh, mmh. mienne. Dors, petite sœur, ton sourire est dans mon cœur.
Mais la joie de Noël a passé. Les visiteurs sont partis. On n'entend plus de chant. Marie, Joseph et leurs petits garçons sont restés tout seuls. Et pendant longtemps, longtemps, on n'entendra presque plus parler d'eux.
Vraiment longtemps ?
Moi, je trouve. 30 ans, c'est beaucoup, n'est-ce pas ? Surtout si on pense que Jésus mourra à 33 ans. Il n'aura ainsi que 3 ans pour faire sur la terre tout ce qu'il aura à faire, pour dire aux hommes surtout tout ce qu'il est venu leur dire.
Et vraiment, on ne sait rien de lui pendant ces 30 ans-là ?
Presque rien. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de sa vie cachée. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'ait rien fait, qu'il ne lui soit rien arrivé. D'abord, pour obéir à la loi juive, Marie et Joseph sont allés présenter au temple, l'église des Hébreux, leur enfant premier-né.
Le baptême ?
Non, du baptême nous en reparlerons. Simplement, lors de la présentation, les Juifs ont porté leur premier enfant au temple. Ils ont porté aussi un animal qu'on tuait à cette occasion pour l'offrir à Dieu. Joseph et Marie n'étaient pas riches, vous le savez. Ils portèrent 2 colombes, car c'est l'intention qui compte et non pas seulement la valeur du cadeau que l'on fait. Mais vous voyez surtout qu'au lieu de chercher à se vanter d'avoir un enfant pas comme les autres, Joseph et Marie se sont seulement discrètement pliés à la loi de tous. Mais au temple, ils rencontrèrent quelqu'un.
Qui donc ?
Siméon, un juif très très vieux qui prit Jésus dans ses bras et se mit à louer Dieu en disant
« Maintenant, ô maître !» Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, ton salut, que parions les peuples, prière pour les nations, et gloire d'Israël, ton peuple.
Oh, je t'allume Jésus, Simon a dit, n'est-ce pas, maman ? Mais plus l'air s'entend, pour où l'est-il s'en aller ?
Je t'ai dit, Pierre, Siméon était un très très vieux monsieur, alors tout simplement, il avait envie de mourir.
Drôle d'idée !
Pas tellement. Il commençait à se trouver un peu inutile sur la terre. Il pensait avoir d'affaires. Pourtant, figure-toi, ça l'ennuyait beaucoup de partir sans avoir vu le Messie. Mais c'était un juif très pieux. Alors Dieu lui avait promis en songe qu'il ne mourrait pas sans avoir eu la joie de le voir. C'était un petit accord entre deux, tu comprends ? Mais la présentation et cette rencontre restent un événement dans la vie de la Sainte Famille. Leur existence de tous les jours devait être tout à fait sans histoire.
Pourtant, il y eut la fuite en Égypte.
C'est vrai, Paul. Vous vous souvenez qu'Hérode gouvernait la Palestine. Quand il apprit la naissance d'un roi attendu par les Juifs, il prit peur. Vous imaginez-vous sa colère, sa jalousie ? Allait-on lui prendre la place ? Se croyant sûr d'écarter tout danger, il décida un massacre affreux. Tous les fils aînés des Juifs, s'ils avaient moins de 2 ans, devraient mourir. Il comptait bien ainsi que parmi eux, il y aurait ce fameux petit roi. Et il fit tuer par ses soldats tous ses pauvres petits-enfants.
C'est le massacre des innocents.
Oui, mais Dieu veillait sur son fils. Par son ange, il avertit Joseph de partir. Alors quittant la Judée vers le sud, Joseph, Marie et leur petit Jésus gagnèrent l'Égypte, où ils demeurèrent jusqu'à la mort de cet horrible roi, Hérode. Vous devinez leur joie quand l'ange leur fit savoir qu'ils pouvaient regagner leur patrie ?
Ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui.
La grâce de Dieu, c'est pas étonnant tout de même.
Non, tu as raison, ce n'est pas étonnant. Mais ce qui est étonnant et reste un mystère pour nous, c'est que Jésus soit à la fois le Fils de Dieu et un enfant des hommes. Comme chacun de vous, comme nous tous, à la fois un homme et un Dieu. Une fois même, à cause de cela, il causa à ses parents un chagrin, ou plutôt une grande crainte. Nous allons écouter Saint Luc nous la conter.
Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Les jours de la fête achevés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, sans qu'ils le sachent. Pensant qu'il était dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils cherchèrent parmi leurs parents et connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Voici que ton père et moi, tout en peine, nous te cherchions. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas la parole qui venait de leur dire.
Et vous, qu'en pensez-vous?
Les docteurs dont parle Saint-Luc, c'est bien les prêtres juifs. Moi, je pense qu'ils parlent avec eux de la Bible et de Dieu. Ils parlent bien de Dieu en disant mon père. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas qu'ils l'aient trouvé très savant pour son âge.
Mais Marie et Joseph, pourquoi n'ont-ils pas compris? Ils savaient bien pourtant qui, en réalité, était le père de Jésus.
Et toi, n'y a-t-il pas quantité de choses que tu crois, que tu sais, que tout d'un coup tu ne comprends plus? Quand tu es venu tout à l'heure, c'était bien pour nous dire que certaines choses te gênaient. Pour Marie et Joseph, sans doute, ce fut la même chose. On a la foi, on accepte ce que dit Dieu. Quelquefois même, on pense qu'on est tout près de comprendre. Et crac! Brusquement, on hésite. On ne sait plus, on n'est plus très sûr. C'est comme si nous étions tous sur un petit sentier de montagne, plein de pierres. Tu t'essouffles un peu, mais tu marches, tu avances. Seulement, de temps en temps, tu trébuches. Ce n'est pas une raison pour tout redescendre en courant, tu ne trouves pas? Pour nous aider à poursuivre ce chemin souvent difficile, regardons encore la Sainte Vierge.
Marie, sa mère, recueillait toutes ces choses dans son cœur. Elle accepte cette peine, sans comprendre, comme elle avait accepté les joies. Elle sait bien qu'elle doit donner au monde Jésus, son Fils. Elle sait bien que Dieu ne lui a pas donné Jésus pour elle-même, mais pour tous les hommes.
D'ailleurs, pour tout le reste,
Jésus leur était soumis. Il croissait en sagesse, en taille, en grâce, devant Dieu et devant les hommes.
C'est tout? Vous voyez? On ne sait presque rien de ce petit garçon, ni de cet homme-là. Mais on en sait assez tout de même pour comprendre qu'il a attaché une grande importance à la qualité, à la perfection de la vie simple de tous les jours. Ce que nous appelons notre devoir d'État, ce que nous avons à faire, bien le faire, et peu importe que les autres le sachent ou ne le sachent pas.